VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Dans quelques minutes, Sahel Plus avec Léon Morin-Gibourg, mais tout d'abord, les nouvelles. En Centrafrique, la situation sécuritaire se détériore de plus en plus à Bambari, la ville minière où est basée la milice ex-Seleka. Les tout derniers affrontements entre cette milice et les combattants Tibalaka ont fait plusieurs morts et beaucoup de maisons ont été incendiées. Les précisions du maire de Bambari, Mathieu Pata, contacté par Pascaline Magalé.
On nous apprend qu'il y a des tueries là et là, mais sinon ce matin on avait trouvé trois corps au niveau du centre-ville. Donc certainement que ces hommes-là auraient été tués tôt ce matin quoi. Ben, il y a eu une petite accalmie, mais toutefois il y a toujours la méfiance et même l'inquiétude aussi qui plane. Donc les gens n'osent pas quitter leur domicile.
Mathieu Pata, maire de Bambari en Centrafrique. RDC maintenant, dans le sud-est du pays, 8 militants d'un parti congolais récemment passé à l'opposition ont été appréhendés hier à Lubumbashi. Le point avec Eddy Sango.
Selon des témoins, 8 personnes ont été arrêtées au siège du parti où les soldats ont même déchiré la grande affiche à l'effigie de Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président de l'UNAFEC et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'armée affirme que ces arrestations résultent de la traque des membres du service d'ordre de l'UNAFEC recherchés pour avoir incendié la maison d'un dissident, ce que dénoncent ces partis. L'UNAFEC appartient au G7, groupe des 7 partis dont les dirigeants ont été exclus de la majorité en septembre après avoir mis en garde les présidents Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 contre la tentation de s'accrocher à son poste. À Kinshasa, l'opposant Joseph Olinga Nkoy, président de FONUS, a déclaré que 3 membres de son mouvement avaient également été arrêtés le 5 novembre.
Au Burundi, Pascal Nyabenda, président du CNDD-FDD, parti au pouvoir, s'en est pris violemment à la Belgique, ancienne puissance coloniale. Il accuse Bruxelles d'armer l'opposition dans l'objectif, dit-il, de recoloniser son pays, plongé depuis 6 mois dans une grave crise politique. Les lobbies belges et leur réseau de l'Union européenne lancent des déclarations apocalyptiques concernant un génocide au Burundi dans le seul but de protéger une nébuleuse politicienne que le colonisateur belge finance et arme dans notre pays, afin de le détruire, a affirmé M. Nyabenda dans un communiqué. Au Tchad, le recensement électoral biométrique lancé le 26 octobre en prévision des élections de 2016 rencontre d'énormes difficultés sur le terrain. Il était question initialement d'ouvrir plus de 8000 centres de recensement sur le territoire national et de boucler l'opération en 45 jours seulement. Mais cet objectif semble maintenant une mission impossible. Timothée Donangmaï a joint à Moïsala, dans le sud du Tchad, Ali Gabriel Golor, secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme, un parti d'opposition.
Les premières difficultés se situent au niveau des agents qui s'occupent de l'opération recensement. Ces agents-là, ce sont les opérateurs, les accompagnateurs et les superviseurs. Leur formation a été trop rapide, de telle sorte que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à bien maîtriser l'outil informatique. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, c'est que les kits d'enrôlement ne sont pas livrés en nombre suffisant. Je prends 2 exemples. Dans la localité de Bedaya, enfin la sous-préfecture de Bedaya, il a été prévu de livrer 19 kits pour le recensement. Mais au moment où je parle, Bedaya ne possède que 3 kits. À Bessada, il a été prévu de livrer 14. Au moment où je parle, Bedaya, toute la sous-préfecture n'a que 3 kits. Donc cela va avoir des répercussions certaines sur le travail.
Comment les électeurs réagissent-ils par rapport à ce recensement?
Il y a eu de la sensibilisation et j'ai constaté que la plupart des électeurs veulent se faire recenser. Ceux que nous constatons, on risque d'arriver à la fin du délai de 45 jours sans qu'une bonne partie ne soit recensée. Donc il y a un vrai problème de prolongation du délai qui se pose en ce moment. Mais il y a d'autres difficultés, hein, mais ça c'est les difficultés matérielles des agents qui sont sur le terrain maintenant. Il y a des problèmes de véhicules qui sont en nombre insuffisant. Il y a le problème de carburant qui n'est pas livré en quantité suffisante. Il y a le problème des indemnités des agents qui n'est pas résolu. Donc il y a des tas de problèmes qui bloquent la bonne marche de l'opération recensement en ce moment.
Qu'est-ce qui peut être fait pour rattraper les choses?
Nous qui sommes du CNDP, nous avons fait le constat au Moyen-Chari et dans le Mandil, où nous nous trouvons en ce moment. Nous avons tenu une réunion à Koumra avec les délégués de la CENI dépêchés de Djamena. Nous avons attiré leur attention sur les différents problèmes et nous avons demandé avec insistance qu'ils saisissent la CENI mère Djamena pour pouvoir résoudre ces problèmes-là.
Ali Gabriel Golor, secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme, parti d'opposition au Tchad. Et puis en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 36 ans, s'est déclaré hier soir candidat à un nouveau mandat pour la présidentielle de 2016, dont la date exacte n'est pas encore précisée. M. Obiang a fait cette annonce à l'ouverture du troisième congrès extraordinaire du PDGE, le parti démocratique de Guinée équatoriale, dont il est le leader.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Nigeria a un nouveau gouvernement plus de 5 mois après la prise de fonction du président Muhammadu Buhari. Les détails avec Idriss Fall.
36 ministres et secrétaires d'État venus de 36 États de la Fédération ont prêté serment à Abuja. Le président Muhammadu Buhari, 72 ans, s'est réservé le portefeuille du pétrole gangréné par la corruption. Il aura pour adjoint Ibe Kasikou, tout nouveau patron de la compagnie pétrolière nationale. L'ancienne banquière d'affaires Kemi Adeosun sera aux finances pour tenter de remettre en marche une économie grippée par la dépendance vis-à-vis du pétrole dont les cours sont en chute libre. Le général à la retraite Mohamedou Mansour Dan Ali sera à la défense avec la lourde tâche de combattre Boko Haram. L'ancien chef d'état-major de l'armée Abdulrahman Dambazou prend le ministère de l'Intérieur. Un avocat d'affaires, Geoffrey Onéama, sera à la tête de la diplomatie.
Au Bénin, le président Yayi Boni, l'un des rares chefs d'État africains à s'être engagé à passer la main au terme de deux mandats, a choisi de respecter la Constitution nationale en ne se présentant pas à l'élection présidentielle de 2016. Il a expliqué son choix hier dans une interview à l'AFP en marge d'une visite officielle à Paris. Jean-Roger Bion.
Chacun sa conviction, la mienne c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit deux mandats non renouvelables, a déclaré le président Boni Yayi. Je n'ai pas de leçon à donner, je ne veux critiquer personne, a immédiatement ajouté M. Boni Yayi, âgé de 63 ans, élu pour la première fois en avril 2006 et réélu 5 ans plus tard. De nombreux chefs d'État africains tels le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Zimbabwéen Robert Mugabe ou l'Ougandais Yoweri Museveni sont au pouvoir depuis plusieurs décennies et ne donnent aucun signe de départ. Au Burundi, la candidature en avril de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, considéré par l'opposition contraire à la Constitution, a plongé le pays dans une grave crise. Au Congo, le président Sassou Nguesso, âgé de 71 ans, a fait adopter en octobre une nouvelle constitution, lui permettant de briguer un mandat supplémentaire via un référendum dénoncé comme une tricherie par ses opposants. Chaque pays a ses spécificités, a estimé le président Boni Yayi. Il y a des chefs d'État qui travaillent, qui ont lancé de grands projets, qui sont animés par le peuple et qui sont passés par des méthodes démocratiques pour réviser leur constitution.
Crise des migrants, les leaders européens et africains en sommet à Malte. Plus d'une soixantaine de dirigeants de l'Afrique et de l'Union européenne se concertent mercredi et jeudi à La Valette pour proposer de meilleures solutions afin de résoudre la crise migratoire qui a vu des centaines de milliers de personnes fuir vers l'Europe cette année. Des précisions avec Jacques Aristide.
L'UE affirme que le sommet porte principalement sur les raisons qui poussent de nombreux Africains à partir de leur pays d'origine, mais aussi sur les voies légales de l'immigration, le renforcement des protections pour les migrants, la lutte contre les contrebandiers et la coopération avec les pays africains pour le retour des personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Ce sommet est un sommet où doivent découler des actions concrètes et pratiques, a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk. L'Europe va ainsi débloquer une nouvelle enveloppe d'aide en faveur des pays africains, mais les critiques affirment que l'UE cherche en fait à rapatrier les migrants vers les pays qui bafouent les droits humains et qui n'offrent pas d'opportunités économiques. Au moins 14 personnes sont mortes noyées ce mercredi après le naufrage d'un bateau qui avait quitté la Turquie en mettant le cap sur la Grèce.
Aux dernières nouvelles, il était question d'une enveloppe d'1,8 milliard d'euros pour aider l'Afrique à limiter le flux d'immigrants vers l'Europe. Et pour terminer ici aux États-Unis, plusieurs candidats républicains à la Maison-Blanche, Donald Trump en tête, ont rejeté cette semaine toute augmentation du salaire minimum aux États-Unis. Un sujet de contentieux dans la campagne. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Dans quelques instants, Sahel Plus avec Clermont Régibourg.
« Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Et tout